Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Wagon Libre, l'émission littéraire de votre radio locale. Je rappelle, vous pouvez nous écouter via internet sur www.radion.fr. Publié l'hiver dernier, le livre dont il va être question ce soir, soucieux de vulgarisation médicale, a suffi pour retenir notre attention. Pensez donc le livre d'un professionnel de la santé, agrémenté de citations d'écrivains, de poètes, ne pouvait que nous séduire. Découvrons donc, grâce à l'auteur venu du pays avalonnais, ce soir devant les micros, découvrons donc ce que recouvre le terme de médecine manuelle, que l'on appelle encore ostéopathie. Chirurgien de formation, notre invité témoigne dans « Comment j'ai découvert l'ostéopathie et comment je pratique la médecine manuelle » publié aux éditions Frison Roche, un livre d'une grande rigueur scientifique et à la fois parfaitement accessible aux profanes. Docteur Abdelaziz Machouti, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Petit.
Merci à vous d'être présent ce soir devant les micros de Radion pour évoquer effectivement l'ostéopathie, la médecine manuelle qui vous passionne, on peut dire c'est une passion dévorante depuis très longtemps, mais on va y revenir. Et puis bien évidemment, nous allons avec vous essayer d'aborder le contenu de votre livre. Un livre personnel où vous vous révélez un petit peu avec pudeur, c'est aussi le témoignage d'un être pétri d'humanisme qui raconte son parcours et qui aussi raconte comment il a découvert l'ostéopathie. Alors, je disais que votre ouvrage, certes, a un contenu médical, scientifique, il y a un glossaire avec donc des définitions bien précises qui nous permettent de réviser un peu l'anatomie, le nom des muscles et autres éléments physiologiques. Et ce qui m'a touché, docteur Abdelaziz Machouti, c'est que, bien sûr, vous racontez votre parcours, vous aimez la lecture, vous aimez la littérature, et vous mentionnez quelques auteurs et quelques livres qui vous ont marqué, notamment le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, ou alors un recueil de poèmes de Prévert, et puis bien sûr, il y a un chanteur qui vous a énormément marqué, c'est Jacques Brel.
Effectivement, le but initial de ce livre, c'est surtout apporter un témoignage sur la pertinence et l'importance de la médecine manuelle ostéopathie que j'ai découverte en 2003. Et je voulais aussi que ce témoignage ne soit pas trop rébarbatif, que ce soit léger, à la portée de tout le monde. Et petit à petit, donc, au fil de l'écriture, je voulais agrémenter avec des poètes et des artistes français et d'autres nationalités. Et par la suite, il a fallu que je reste dans la rigueur médicale.
Donc, d'accord, docteur. Alors, effectivement, chaque chapitre s'ouvre par une citation, comme je l'ai dit dans l'introduction, ou d'un écrivain, ou d'un poète, ou d'un scientifique. Einstein est très souvent cité, me semble-t-il. Alors, pour vous présenter un peu, vous avez 57 ans, vous êtes marié, vous êtes le papa de 4 enfants. Vous êtes né au Maroc, docteur Abdelaziz Machouti.
Oui.
Et vous êtes, on peut dire, le fruit d'une double culture.
Oui, c'est vraiment une vraie double culture à tous les niveaux, autant au niveau de la langue qu'au niveau de la culture elle-même. À l'époque, on apprenait le français et l'arabe en même temps dès l'école primaire, donc on était naturellement bilingue, et ce qui m'a permis aussi par la suite d'avoir une intégration très facile en France quand je suis arrivé en 1984.
Et votre papa surveillait avec beaucoup de soin vos travaux de français.
Ah oui, oui. Là, il était toujours derrière nous, surtout pour le français qu'il adorait. Il aimait beaucoup, beaucoup les français. Il avait quelques amis français. Et il était toujours derrière nous à contrôler nos devoirs de français.
Et vous avez, vous pensez, depuis cette époque, ce goût des lettres, des écrivains, de la littérature. Vous écrivez dans le livre que vous avez peu manqué le rendez-vous littéraire d'Antenne 2 à l'époque, qui était animé par Bernard Pivot aussi.
Ah oui, c'était parmi mes soirées préférées. Je crois que je n'ai pas raté une seule des émissions, sauf quand j'étais de garde à l'hôpital de Sens. Mais je rêvais, j'ai toujours rêvé d'écrire pendant toute mon enfance et mon adolescence. J'ai lu pratiquement tous les auteurs français, autant écrivains que poètes. Et j'ai grandi avec ça, c'est tout à fait naturel pour moi de me considérer en même temps marocain et français.
Sans vouloir rentrer dans le pathétique, d'ailleurs vous n'en parlez pas longuement, mais vous le dites au tout début de votre livre, vous êtes orphelin de mère, vous perdez votre maman, vous avez 11 ans. Et ça me paraît important de le souligner, d'abord parce que vous-même, vous ne passez pas sous silence ce qui, je pense quand même, est une cassure dans une vie, la perte d'un parent, surtout quand on est enfant. Et il y a une métaphore, ou alors c'est une vision en tout cas, qui va guider votre parcours, c'est la vision d'une colombe blanche. Docteur Machouti, pouvez nous en parler de cette colombe blanche qui vous guide encore un peu aujourd'hui? D'ailleurs, à la fin du livre, vous en parlez encore.
Oui, de toute façon, c'est une image comme si c'était hier, c'est une image qui s'est vraiment gravée dans ma tête, dans ma chair. C'est le lendemain du décès de ma mère. J'étais sur le balcon, il faisait très beau, et puis c'était le mois d'octobre. Et puis, en levant la tête, une colombe est passée à ce moment-là. Et puis, instinctivement, ou pour m'accrocher à quelque chose, c'était pour moi comme l'âme de ma mère qui est passée à ce moment-là. Et puis, il est resté dans ma tête et il m'a toujours guidé, il me guidait toujours.
Et cette colombe, elle a, on peut dire, initier votre parcours d'homme et de médecin?
C'est possible, en tout cas. Moi, je crois que c'est moi qui, à chaque fois que j'ai quelque chose de bien, je le rattache à cette colombe. Je dis, ça y est, c'est ma colombe qui m'a amené ça, c'est ma colombe qui m'a donné l'occasion de découvrir ça ou de connaître tel ou tel. Et quand ça ne va pas, je pense pas à elle. C'est quand ça va très bien que je dis c'est grâce à ma colombe.
Vous n'êtes pas sans savoir que la colombe a un symbole, bien sûr, dans la culture chrétienne. Elle est bien sûr le symbole de l'Esprit Saint. Vous dites dans le livre, vous êtes athée et pourtant vous aimez les lieux où les lieux où se dégage pourtant la spiritualité, enfin dominée par la spiritualité. Vous adorez par exemple la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay.
C'est un endroit que j'aime beaucoup par son calme. C'est autant une église qu'une mosquée, qu'une lieu de prière
des. Une synagogue.
Une synagogue. C'est un endroit où, en principe, c'est un endroit où il y a de l'amour. Que les gens s'aiment entre eux, même sans parler de l'existence au nom de Dieu, mais c'est un endroit où quand même, un endroit où l'être doit aimer son prochain.
Sur ce message de paix et d'amour, nous vous quittons quelques minutes, le temps d'une pause, en compagnie de Jacques Brel, qui nous interprète La Quête. C'est un choix de notre invité, le docteur Abdelaziz Machouti, venu devant nos micros, présenter ce soir son livre, paru aux éditions Frison Roche.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire sur l'antenne de Radion, chaque mercredi soir de 21h à 22h. Devant nos micros, nous accueillons ce soir le docteur Abdelaziz Machouti pour mieux connaître les vertus du toucher qu'implique la pratique de la médecine manuelle, qu'on appelle encore ostéopathie. Alors, docteur Machouti, je récapitule rapidement. Je vous prie de m'en excuser, votre parcours et votre formation médicale. Alors, on a bien dit que vous étiez né au Maroc. Vous avez quitté le Maroc pour venir en France. Vous n'avez pas de visa, d'ailleurs, à cette époque.
Oui.
Et vous, un petit mot sur cette arrivée en France sans visa?
Non, c'était plutôt... Il y avait beaucoup de mes collègues, de mes amis qui sont arrivés. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais arriver en France sans visa, il y a en risqué, tout simplement...
Le retour à la frontière, l'expulsion.
Oui, l'expulsion, le refoulement au pays d'origine.
Alors néanmoins, en dépit de cette audace et de cette épée de Damoclès au-dessus de vous, bon, vous allez de toute façon obtenir la nationalité française plus tard, effectivement. Mais vous allez, alors là on arrive au début des années 80, en août 1984, vous êtes recruté pour 3 mois, vous allez faire fonction d'interne en chirurgie. Et c'était où
À la Charité-sur-Loire.
Ouais. En novembre 84, on vous retrouve au centre hospitalier de Sens. Là, vous êtes dans le nord du département. Et puis, il faut attendre 1992 pour vous... Parce que vous y êtes connu, à Avallon. C'est là qu'on vous retrouve en qualification... vous avez la qualification en chirurgie générale, mais on peut dire que les qualifications en chirurgie... Vous les acquérez au moment où vous êtes à Avallon, en poste à Avallon?
En arrivant à Avallon, j'étais comme assistant. Après, j'ai passé plusieurs examens sur 18 ans, sur 16 ans, pour enfin acquérir la qualification reconnue par l'ordre des médecins. Et à ce moment-là, que j'étais considéré par l'État français comme chirurgien à part entière, malgré que je travaillais exactement de la même façon depuis 16 ans auparavant.
C'est la raison pour laquelle, docteur, je vous prie de m'excuser si j'ai retracé un peu hâtivement votre parcours de médecin, parce que c'est un parcours sur de nombreuses années et qui a demandé, on peut dire, des sacrifices et des efforts intellectuels très importants.
Et beaucoup d'examens.
Alors, en janvier 2007, vous ouvrez votre cabinet dans le pays à Vallonnais, et puis en juin 2008, vous avez obtenu, c'est pas si loin que cela, vous obtenez le diplôme de médecine manuelle ostéopathie. Alors, on va peut-être maintenant rentrer dans le vif du sujet et notamment dans le thème central qui est au cœur de votre ouvrage dont je rappelle le titre « Comment j'ai découvert l'ostéopathie et comment je pratique la médecine manuelle » signé de notre invité, le docteur Abdelaziz Machouti, aux éditions Frison Roche. Alors, ce qui m'a énormément plu dans votre livre, c'est que vous expliquez et vous rendez hommage au corps et notamment à un de nos sens. Et on a envie de le développer toujours plus en vous lisant, c'est le sens du toucher. Et vous revenez sur la fascination que vous avez pour la main. Il y a d'ailleurs une très jolie main sur la couverture de votre livre, c'est celle de votre petit dernier,
oui.
Votre fils, avec effectivement un arc-en-ciel de couleurs rouge, jaune, vert, etc. sur la couverture. Donc une couverture très riante et très souriante avec cette main. Cette main qu'on trouve aussi dans votre cabinet. Et pourquoi cette fascination pour cet organe du corps humain, la main ?
Depuis déjà tout petit, j'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup écrit de poèmes aussi, j'avais une âme d'artiste et la main m'a toujours attiré. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appris la chirurgie de la main en 1991 à Strasbourg, en travaillant pratiquement gratuitement chez un grand chirurgien de la main. Ça m'a toujours attiré. Et puis, comme bien sûr chirurgien, on utilise ses mains pour opérer. Et le comble, et surtout la cerise sur le gâteau, c'est que quand j'ai découvert l'ostéopathie et je travaille encore avec mes mains. Ça, c'est en s'appliquant sur une autre fonction qui est très très importante, mais malheureusement pas très très mise en valeur, c'est la valeur du toucher, la valeur du toucher à tous les niveaux.
Alors vous parlez aussi, c'est extraordinaire, vous parlez de je vous cite, hein, la pulpe de mon doigt. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous êtes doté d'une sensibilité exceptionnelle.
Au niveau de toute la main, et bien sûr au niveau de la pulpe du doigt, c'est encore plus important. L'innervation, le nombre de cellules nerveuses au niveau de la main, c'est extraordinaire, c'est inimaginable le nombre de cellules nerveuses qui nous permettent de sentir aussi bien les vibrations que la douleur, que les différences de température, des fonctions bien sûr qui sont transmises au niveau du cerveau en permanence.
Alors revenons sur ce toucher, parce que vous abordez un thème extrêmement passionnant, puisque vous dites que dans la culture arabo-musulmane, on se touche très facilement, même entre hommes, hein, et sans équivoque, on se touche beaucoup, on s'enlace, on se touche beaucoup, le bras, le corps, alors que dans la culture judéo-chrétienne, on glorifie l'âme aux dépens du corps. Et alors ce qui est amusant, c'est lorsque vous racontez dans votre livre les premières sessions de formation et d'approche à l'ostéopathie, c'est extraordinairement drôle parce qu'on voit des jeunes gens très motivés qui ont envie d'aborder l'ostéopathie et vous vous retrouvez, on peut dire, en slip, en sous-vêtements, oui, avec des confrères et vous devez...
Il faut toucher.
Il faut toucher. Hein. Chacun se met dans une position tantôt de patient, tantôt de praticien. Voilà. Et c'est très drôle de vous imaginer, pas vous spécialement, mais tout cet ensemble de jeunes gens. Ouais.
Mais moi, ça ne m'a posé aucun problème pour deux raisons. Déjà, parce que j'aime bien toucher les gens. Et en plus, je suis chirurgien. Donc, j'ai l'habitude de toucher les gens, de voir les gens déshabillés, de les examiner. Donc, le toucher, pour moi, n'avait aucun tabou, ni sur le plan social, ni sur le plan professionnel.
Alors, par rapport au toucher, j'ai une question qui est pour moi très importante, c'est qu'évidemment, dans votre cabinet, vous recevez des patients qui souffrent, qui souvent n'ont pas eu de réponse à leur souffrance de par la médecine classique, ce qu'on appelle la médecine allopathique, j'espère ne pas me tromper, je ne préfère non plus le pédant, mais disons que c'est ainsi qu'on l'appelle, la médecine traditionnelle ou médecine allopathique. Ces patients viennent vous voir dans votre cabinet et évidemment, vous les touchez, vous touchez, vous les vous les examinez. On va revenir sur le détail et les différentes étapes d'une consultation un petit peu plus tard. Mais ce toucher doit être pratiqué sans ambiguïté. Or, vous n'êtes pas sans savoir, docteur, qu'on est dans une société un peu suspicieuse où le moindre geste déplacé est interprété et donne lieu à des, pourquoi pas, des dépôts de plainte. Hein. Vous n'avez pas cette crainte comment s'établit la relation avec un homme, une femme patient que vous allez toucher dans le cadre d'une pratique médicale?
Non, il y a aucune ambiguïté de ce côté-là. Les gens, avant de venir chercher un soin ostéopathique, ils savent très bien qu'ils vont être déshabillés, examinés et touchés, et de façon parfois très serrée. Quand on fait des manipulations, une manipulation se fait avec un seul corps qui englobe le patient et le médecin. Donc de ce côté-là, il n'y a aucune ambiguïté. Du moment que les gens savent qu'ils vont être examinés le plus souvent en sous-vêtements. D'un autre côté, la majorité des gens savent que je suis chirurgien, donc il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là. Donc c'est pas quelqu'un, un ostéopathe ou une ostéopathe qui va se jeter sur une personne pour dire déshabillez-vous, je vais vous examiner ou je vais vous manipuler. Donc de ce côté-là, je ne me fais vraiment aucun souci.
Nous nous retrouvons dans quelques minutes et nous vous laissons en compagnie d'un choix musical de notre invité. Nous allons écouter Férouz, cette chanteuse libanaise à la voix d'ange qui, avec Oum Kalthoum, est une des plus célèbres chanteuses arabes.
Malla inta.
sur Radion dans Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Comment j'ai découvert l'ostéopathie et comment je pratique la médecine manuelle, tel est le livre de notre invité paru aux éditions Frison Roche, et c'est le docteur Abdelaziz Machouti qui est en notre compagnie ce soir. Docteur, revenons sur l'ostéopathie. Vous expliquez dans votre livre que les Égyptiens connaissaient déjà cette médecine manuelle.
À l'époque, il y avait surtout des manipulations de la colonne vertébrale qui se pratiquaient. Par la suite, des Grecs et des médecins grecs et des médecins arabes qui ont essayé de la pratiquer de plus en plus en se basant sur des données anatomiques, jusqu'au Moyen Âge où, à cette époque-là, c'est les chirurgiens qui pratiquaient les manipulations vertébrale, ce qu'on a appelé par la suite l'ostéopathie. Par la suite, l'Église a interdit la chirurgie devant l'importance de la mortalité, et les chirurgiens, il n'y avait plus de chirurgiens, donc il n'y avait plus d'ostéopathes. Et à ce moment-là, c'était les rebouteux qui ont pris
le relais
pour continuer à faire de l'ostéopathie. Et puis les gens allaient de plus en plus vers eux, malgré le dénigrement des médecins envers cette discipline.
C'est le roi Louis XV en France qui a remis la chirurgie un petit peu à l'honneur.
Voilà. Jusqu'au 19e siècle, où c'est un chirurgien américain qui s'appelle André Taylor Steele qui a découvert cette discipline, qui a mis en place ses concepts et ses modes d'action.
Et alors en France, docteur, à partir de quel moment peut-on considérer que l'ostéopathie devient une médecine plus ou moins reconnue, même si c'est pratiqué parfois dans la plus grande confidentialité?
Oui, et effectivement, c'était très très confidentiel au début. C'est à partir de 1919 que le docteur Robert Lavezzari a commencé à soigner des gens par l'ostéopathie. C'était vraiment très très confidentiel au niveau des médecins. Mais c'est à partir de 1900, dans les années 60, que le docteur, maintenant actuellement professeur Robert Maine, qui a introduit l'ostéopathie et les manipulations vertébrales en France, après qu'il l'a prise en Angleterre. Et c'est grâce à lui que l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins a admis l'ostéopathie et la médecine manuelle comme faisant partie des pratiques de la médecine.
Dans votre livre, docteur, vous vous insurgez contre celles et ceux qui disent « Oh, ben l'ostéopathie, ça consiste à faire craquer quelques vertèbres ». Or, finalement, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus raffiné, j'allais dire, que cette définition un peu caricaturale.
J'avais la même idée sur l'ostéopathie avant que je la découvre. Quand je l'ai découvert, ce n'est pas uniquement des manipulations vertébrales, mais c'est une façon de poser un diagnostic et de traiter. Donc c'est un moyen diagnostique qui peut être à la portée de tous les médecins et un moyen thérapeutique qui peut être à la portée de tous les médecins, mais tous les médecins ne peuvent pas faire tous l'ostéopathie, mais déjà faire un diagnostic ostéopathique, ça évite beaucoup de gaspillage pour demander des examens inutiles et des arrêts de travail, et surtout soulager le patient le plus tôt possible. Donc cette discipline, elle a des bases anatomiques, elle a des bases physiologiques. Par exemple, rien que la peau, elle a une importance considérable dans l'examen ostéopathique. La posture, regarder quelqu'un, comment il est debout, comment il marche, comment sa tête penche d'un côté ou d'un autre, où il y a un pied plus ouvert vers l'extérieur que l'autre. Rien que en regardant les patients, on peut déjà poser un diagnostic.
La suite de Wagon Livre dans quelques minutes. Je rappelle que nous accueillons ce soir sur Radion le docteur Abdelaziz Machouti, ostéopathe dans le pays avalonnais, auteur d'un livre paru aux éditions Frison Roche, livre qui a pour titre « Comment j'ai découvert l'ostéopathie et comment je pratique la médecine manuelle ». Voici une pause musicale qu'il nous a suggérée. Nous écoutons Nassel Riwan, un groupe qui, en s'appropriant la richesse du folklore marocain, a révolutionné la chanson marocaine dans les années 1970. Radio ce soir avec notre invité, le docteur Abdelaziz Machouti. Docteur, juste avant la pause musicale, vous avez mis en avant quelques aspects essentiels et fondamentaux pour l'ostéopathe. Alors revenons sur la peau. Il y a cette citation du poète Paul Valéry, « La peau est l'organe le plus profond » et j'y ai appris en vous lisant que l'ensemble de notre peau pesait à peu près 4 kilos. Alors, elle a une épaisseur de 1 à 4 mm, ça dépend des endroits. Et alors docteur, dans quelle mesure la peau a-t-elle son importance pour l'ostéopathe qui va aller déceler une douleur, une souffrance que la médecine traditionnelle, que la médecine classique est souvent incapable de soigner et on se demande pourquoi d'ailleurs.
Par négligence, j'en sais rien, mais la peau c'est vraiment un trésor pour tous les médecins, pour tous les soignants, pas seulement les médecins, c'est un trésor pour le kinésithérapeute, pour l'infirmière, pour beaucoup d'autres spécialités qui concernent les soins médicaux et autres.
Alors, vous, par exemple, que faites-vous de la peau?
Déjà, pour faire un diagnostic, une personne qui arrive chez un ostéopathe, qui se plaint d'une douleur de l'épaule. Un exemple tout simple et courant, de l'épaule ou du genou ou de la cheville, n'importe. Il vient déjà avec, il a déjà essayé plusieurs traitements, des traitements médicaux. Après, il y a eu des examens de fait qui reviennent tous négatifs ou à la rigueur, ils montrent un petit peu d'arthrose et le patient, il a toujours mal. Et dès que les examens complémentaires sont négatifs, on dit au patient, ben, vous n'avez rien.
Ou alors on dit c'est dans la tête. Alors ça vous dit que c'est terrible parfois, de dire à quelqu'un qui souffre, c'est dans votre tête.
Parfois on va jusqu'à dire que c'est peut-être psychologique ou psychosomatique. Il suffit de pincer la peau. Il suffit de pincer la peau au niveau de l'épaule et on se rend compte que la peau est déjà douloureuse. Même à ce moment-là, on sait que la sensibilité de la peau est perturbée. Si la sensibilité d'une zone de l'organisme est perturbée, la peau ou le muscle, ça veut dire que le nerf qui assure la sensibilité à cet endroit-là est comprimé quelque part. Donc, il peut être comprimé à sa sortie de la colonne vertébrale, il peut être comprimé au passage sous un muscle, il peut être comprimé par une séquelle de traumatisme, mais en tout cas, c'est une compression du nerf. Je donne l'exemple du canal carpien, c'est une pathologie très connue. Les gens qui ont un canal carpien, ils se plaignent beaucoup de leurs mains, des fourmillements, tout ça, parce que le nerf est comprimé au niveau du poignet. Mais tout le corps a une sensibilité et toutes les zones du corps ont des territoires bien spécifiques. Par exemple, le nerf qui sort entre la 5e et 6e vertèbre cervicale, ben, il donne la sensibilité sur la face externe du bras, de l'épaule, en passant la face externe du coude jusqu'au pouce. Donc toute cette zone-là est douloureuse, pas seulement l'épaule. Mais le patient ne se plaint que de son épaule parce que c'est là qu'il y a beaucoup de mouvements. Parce que là, qu'il sollicite. Mais quand ce nerf-là qui donne la sensibilité à la peau, et donne la sensibilité aussi aux muscles qui est au-dessous, à ses enveloppes et aux ligaments qui relient les muscles à l'os.
Alors, parlons un peu d'une consultation. Parce que vous allez, on le sait, lorsque vous allez à la rencontre d'un patient dans votre salle d'attente, vous allez, dans un premier temps, déjà regarder de quelle manière il va se lever de son siège. Vous allez observer un peu sa démarche.
Ah oui, effectivement, déjà au niveau du regard, on sent la personne qui souffre beaucoup, ou on sent la personne qui revient pour la deuxième et troisième fois, un regard de tranquillité, un sourire, la façon dont il se lève et comme il marche, on sait déjà la région qui fait mal. Bien sûr, il y a, comme tout examen médical, il y a un interrogatoire. On pose les questions sur les antécédents, sur le début de cette douleur, s'il est du jour ou de la nuit, ou s'il est après un effort, les traitements qui ont été essayés, les antécédents du patient, comme tout examen médical. Et après, on passe à un examen manuel, c'est-à-dire on déshabille les gens ou non selon la douleur pour laquelle ils viennent consulter. Quelqu'un qui vient consulter pour des douleurs lombaires, on le déshabille plus facilement que quelqu'un qui vient pour une douleur du coude. Mais on finit toujours par un examen global parce que on n'a pas parlé encore jusqu'à présent, l'ostéopathie, ça veut dire globalité. On soigne la personne en entier, c'est-à-dire son corps, parfois aussi son mental ou du côté émotionnel, et en n'oubliant jamais l'environnement où il évolue.
Un peu d'exotisme et de dépaysement avec un air de musique andalouse qui a fortement influencé la musique classique du Maroc. C'est un choix musical du docteur Abdelaziz Machouti, ostéopathe du côté d'Avallon. Il est ce soir l'invité de Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi sur Radion à 21h. Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Ce soir, notre invité, le docteur Abdelaziz Machouti, pour son livre, paru aux éditions Frison Roche, « Comment j'ai découvert l'ostéopathie et comment je pratique la médecine manuelle ». Eh bien justement, docteur, comment pratiquez-vous la médecine manuelle? Il faut revenir, je crois, parce que c'est un élément incontournable de votre pratique, il faut bien souligner et dire aux parents d'acheter de bonnes chaussures à leurs enfants parce que cela conditionne la posture. Et la posture, c'est fondamental parce que finalement, si on a eu une mauvaise tenue très jeune, on le paye un jour ou l'autre dans sa vie de jeune adulte.
Pas seulement de problèmes de chaussures, c'est la posture est très importante dès que les enfants commencent à marcher. S'ils ont des pieds plats ou pieds creux, ils vont le payer plus cher s'ils ne sont pas pris en charge par un podologue qui fait de la posturologie. Si les enfants qui louchent pas correctement, par exemple si en approchant le doigt des yeux d'un enfant et en arrivant à 3-4 cm du nez, un œil repart vers l'extérieur, ça veut dire qu'il y a des muscles qui font bouger les yeux, qui ne fonctionnent pas correctement. Et le problème, c'est que ces muscles sont en relation avec les muscles des cervicales. Donc, à chaque fois qu'il y a un défaut de convergence au niveau d'un œil, il agit tôt ou tard sur les vertèbres cervicales. Et qui dit vertèbres cervicales, dit épaules, dos, lombaires et... Donc, ce qui nous approche de la globalité, un problème, une dysfonction quelque part au niveau des yeux peut influencer la forme des pieds ou des chevilles, et l'inverse. À chaque fois qu'il y a une tension quelque part, tout le reste du corps s'adapte à cette tension. Et parfois, on se retrouve avec une douleur du coude, alors que l'origine est au niveau d'une entorse mal soignée où la cheville a gardé un manque de mobilité. Et si on ne connaît pas l'ostéopathie, bon, on va s'arrêter au coude, on va l'infiltrer, on va faire des radios, mais la douleur elle disparaît, elle revient, elle disparaît. Si on ne cherche pas ailleurs, c'est ça le plus grand principe de l'ostéopathie, c'est la globalité.
Donc c'est que le corps est une unité, finalement, sur un axe, hein, vous dites bien, c'est important, les chevilles, le bassin, le sacrum, le diaphragme, les cervicales, finalement, c'est aussi, ouais. Vous nous invitez à reconsidérer notre corps comme un grand tout, comme une unité qui devrait, normalement, s'articuler harmonieusement.
Voilà.
Donc, dès qu'il y a un défaut, par exemple, au niveau des chevilles, ça peut avoir des conséquences à un autre endroit du corps, pour parler simple.
Oui. Pour parler simple, je vais vous donner aussi un exemple. Je parle comme garagiste. Votre pneu avant droit s'use rapidement. Donc vous allez toujours le changer. Si un bon garagiste vous dit, il va vous dire, monsieur, la roue, il faut la changer maintenant. Mais avant, pour que ça ne revienne pas, il faut changer l'amortisseur. Donc c'est exactement ça. Donc c'est toute une mécanique extraordinaire. On est loin de connaître tout ce que nous cache le corps, la capacité du corps à se soigner, à s'adapter. Donc la globalité, la posture, la prévention, dès
le plus jeune âge, dès la naissance, dès
la sortie de la maternité, l'ostéopathe trouve des petits défauts qui sont pas visibles pour les parents. Essayer de le corriger tant que tout est encore bien malléable. Au niveau des membranes, l'os, tout est encore malléable et on peut, à ce moment-là, corriger. Dès qu'on commence à rentrer et à sortir de l'adolescence, ça devient très difficile de rattraper. Donc à ce moment-là, on fait que le thérapeutique, on peut plus faire de la prévention pour... pour éviter des écueils pareils qui nous embêtent toute la vie.
Alors, je reviens sur un élément que j'ai appris en vous lisant, docteur Machouti, c'est que lorsque deux vertèbres craquent, ce n'est pas les os qui font ce bruit, mais c'est en fait une bulle de gaz entre ces deux ossements, c'est cela qui fait ce bruit. Ai-je bien expliqué? C'est la cavitation.
La cavitation, vous prenez un exemple, vous tirez sur votre doigt, il craque. Ben, c'est exactement la même chose qui se passe. Au niveau, on dit que les vertèbres se déplacent. Il n'y a aucune vertèbre qui se déplace. Si une vertèbre se déplace, c'est la paralysie. Donc, c'est les articulations entre deux vertèbres qui subissent des tensions sous l'effet de contractures musculaires. Et quand on fait une manipulation, cette articulation revient en place, à sa place habituelle. Et ce qui peut induire, ce n'est pas obligé, un craquement.
Le temps passe vite, hein, ce soir dans l'émission Wagon Livre, votre émission littéraire, notre invité le docteur Abdelaziz Machouti. Et effectivement, le temps passe vite, docteur, et le moment est venu de conclure. Alors, avant de nous quitter, docteur Machouti, vous qui êtes ostéopathe, quel regard, selon vous, vos confrères de la médecine classique, de la médecine traditionnelle, qu'on appelle encore médecine allopathique, quel regard ces confrères, selon vous, porte-t-il sur la pratique de la médecine manuelle, sur la pratique de l'ostéopathie?
Ben, exactement le même que le mien avant que je découvre l'ostéopathie, à savoir c'est une méthode réservée aux rebouteux qui font craquer les vertèbres. J'avais exactement la même
approche, en fait.
La même approche.
Un peu dédaigneuse comme ça?
Oui, bah, tout ce qui est manuel, alors que le médecin, c'est plus intellectuel. Et puis, quand j'ai découvert l'ostéopathie, j'étais vraiment ébahi par l'importance, la pertinence de cette discipline. Et d'ailleurs, c'est aussi un motif pour l'écriture de ce livre, d'apporter un regard, pas d'ostéopathe d'origine, un regard d'un chirurgien après 20 ans d'exercice qui découvre l'ostéopathie et qui s'en sert pratiquement tous les jours en étant chirurgien. J'encourage mes confrères à se pencher un petit peu. Il n'y a pas question de que tout le monde pratique de l'ostéopathie, mais au moins qu'il y a un point de vue,
une ouverture
et un point de vue pour encourager ses patients. Mais en tout cas, je remarque que quand même sur la Vallonnée, qu'il y a de plus en plus de médecins qui conseille et qui m'adresse des patients devant des douleurs qui relèvent du traitement ostéopathique.
Alors, il faut dire aussi que l'ostéopathie, docteur, cumule les trois « et », trois mots-clés qui commencent tous par « et ».
Effectivement, donc ça je l'écris dans le livre, c'est les trois « et » de l'ostéopathie, c'est efficacité, économie, écologie.
Alors pourquoi écologie, docteur?
Parce qu'on utilise des énergies renouvelables, donc on n'utilise aucune autre énergie qu'on en met. Économie, parce qu'on évite beaucoup de dépenses
En IRM, en radio,
en examen, en médicaments, en travail, en arrêt de travail. Et efficace parce que les résultats, il y a parfois des gens qui traînent avec des douleurs pendant des mois ou des années et qu'au bout de 2-3 séances, ils se libèrent complètement de leur douleur.
Docteur, avant de nous quitter, un prochain projet d'écriture?
Éventuellement, mais j'y pense, mais ça va être difficile vu le temps que j'ai pour écrire, pour faire autre chose que de soigner mes patients.
Merci, docteur Machouti, d'avoir répondu à nos questions. J'espère, en tout cas, chers auditeurs, que notre échange avec notre invité aura su attirer votre attention sur la médecine manuelle. Vous pouvez, bien évidemment, vous plonger dans la lecture du livre qu'il a fait paraître aux éditions Frison Roche et qui a pour titre « Comment j'ai découvert l'ostéopathie et comment je pratique la médecine manuelle. Un livre séduisant qui retrace le parcours professionnel de notre invité, mais qui constitue un éloge, une illustration de la médecine manuelle qui peut résoudre de nombreuses douleurs en nous conviant à redécouvrir la complexité de notre corps et en attirant notre attention sur l'importance de la posture. Merci docteur.
Je vous remercie.
Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nouveau numéro au cours duquel je m'entretiendrai avec l'écrivain Jean Tellet pour son dernier roman paru aux éditions Julliard, Charlie Neuf, un véritable succès actuellement en librairie. C'est un entretien qui a été réalisé en avril dernier au Sofitel La Cloche à Dijon, Jean Tellet ayant été invité par le Club des écrivains de Bourgogne. C'est donc mercredi prochain à partir de 21h sur Radion. Excellente fin de soirée à l'écoute de nos programmes musicaux. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.